C'est vrai que les frais de déplacement, c'est un sujet, pour le coup, c'est irritant. Ça fait partie des tout premiers sujets sur lesquels on m'a interpellé, parce qu'il y avait des problèmes globalement dans cette collectivité sur les frais de déplacement. Je me dis, tiens, on va inviter Nulou à me parler des frais de déplacement, et on l'a fait en CDG, quoi, en comité de direction générale, un tout premier. Je les faisais encore en salle des instances, juste avant la Covid. Et enfin, c'était un sketch, quoi. Tout va bien, tout va bien. Je me posais des questions, on m'avait fait remonter, on s'était peut-être déjà même rencontré et on m'avait fait remonter déjà des problèmes. Je dis, non, pas de problème. Donc finalement, ça ne me dérange pas que les agents, quand ils font une demande, il est possible que ce ne soit pas rempli dans la bonne case, etc. Mmh. Ça ne vous dérange pas qu'il n'y ait aucun retour, que parfois effectivement ça disparaisse a priori. Alors, il faut savoir quand même, moi je suis depuis très peu de temps dans cette collectivité finalement. C'est quand même quelqu'un qui a priori est protégé depuis des années.
Ça faisait des années qu'il.
Il est sur ce poste-là depuis des années. Moi, quand j'étais en poste, il s'occupait déjà de mes billets de train quand je devais emmener un gamin dans le sud.
Ses agissements étaient. Il avait le feu vert. Il avait le feu vert. C'est un chef de service. Voilà. C'est pas.
Donc, et puis la goutte d'eau, je la
donne. Il a rendu service.
Voilà. Peut-être, mais on était à l'été de coups de carquebranche.
Notamment à votre prédécesseur.
Alors peut-être,
c'est sûr. C'est sûr.
Toujours est-il qu'effectivement, je ne voulais plus sur ces questions de frais de déplacement. Donc je vous confirme qu'il est en train de progressivement d'être déplacé.
On a eu écho de ça.
Voilà. La question après, c'est le déplacement géographique également. Mais en tous les cas, je ne veux plus le voir sur ces sujets-là. Ça, c'est clair. Et encore une fois, des gens comme ça, je suis désolé, et ça, c'est le courage managérial, s'ils posent problème, s'ils ne sont pas foutus effectivement de respecter, s'ils sont obligés d'insulter les gens, pour ça, il y a des sanctions disciplinaires.
Alors, justement... Vous avez fait une super transition parce qu'on voulait vous stopper là-dessus. D'accord. Non, mais on voulait vous interpeller là-dessus, sincèrement.
C'était un des points.
Parce que pour nous, il y a deux choses. Rappelez-vous de M. Mourad Kaoul. Vous vous souvenez ? Vous l'avez reçu avec Mme Thierry ici. Qui est très très bien là où il est d'ailleurs. Ouais, ça se passe très très bien.
Franchement,
ce que vous avez dit en intro, on était d'accord.
Exactement.
Sur des situations individuelles, on arrive à faire évoluer des choses ensemble. Et c'est ce qu'on retrouvait notamment avec M. Rex à une certaine époque.
Et très honnêtement, je vous le dis, je souhaite vraiment que ça continue. Fois, on ne sera pas d'accord sur tout, etc. Mais si on peut, sur des.
On ne vous interpelle pas sur toutes les situations individuelles.
Mais quand vous sentez qu'il y a nécessité,
n'hésitez pas. C'est-à-dire que effectivement, vous êtes intervenu, mais si vous n'étiez pas intervenu, on ne sait pas.
On ne le maîtrisait pas, hein,
voilà. Monsieur Kaoul. On ne sait pas ce que ça s'est passé. Et je pense que vous l'avez senti.
Ah bah oui,
vous l'avez senti.
Et on avait parlé.
On s'était eu au téléphone le jour même, je crois.
Parce que il me faisait très peur. Hein. Oui. Effectivement.
Et on était inquiets aussi.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que nous non plus, on n'arrivait pas à lui faire prendre de la distance par rapport à la situation.
Totalement.
Sauf que Monsieur Kaoul, aujourd'hui, il dit moi, le poids, j'y suis bien, etc. J'ai l'impression d'avoir retrouvé. La reconnaissance de mes compétences, de mon parcours, etc. Sauf qu'il a dit « Oui, mais Monsieur U s'était engagé à mettre en place une enquête administrative, c'est le terme que vous aviez utilisé, concernant les faits qui se sont produits à l'hiver dernier, notamment avec Monsieur Dumortier. » Et là, de suite, pour le coup, on n'a pas de nouvelles. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous, on est en attente, et lui particulièrement. voilà. La deuxième chose...
C'est-à-dire que c'est... je pense que vous l'avez senti aussi, M. Huss. Hein. C'est quelqu'un qui, apparemment, est déterminé. C'est-à-dire que voilà, il lâchera pas le morceau.
Et puis,
il nous le redit à chaque fois.
Et puis, il a une vision de ce que doit être la justice qui est.
Voilà.
Il
attend réparation.
Ouais, il attend réparation.
Et là, la réparation, elle n'est que partielle, si vous voulez, par rapport à ce qu'il a subi.
Oui. Et il y a quand même des faits qui ont été. Posés à un moment donné et qui n'ont pas été repris. Donc, et notamment avec monsieur Dumortier où vraiment il doit, enfin nous on pense qu'il faudrait que vous la mettiez en place cette enquête administrative. Vous y étiez engagé,
effectivement. Alors typiquement on est censé avoir des relais dans cette maison qui justement font en sorte que je ne suis pas obligé de tout faire moi-même. Bon, c'est une idée qu'elle n'a pas été encore mise en place.
Mais nous, on va vous dire, on vous parle franchement, M. Bernard le soutient, M. Dumortier. Voilà. Donc on pense que c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas le bon vecteur, quoi, M. Bernard. En tout cas, parce que M. Bernard, dans l'histoire, M. Kallou a voulu faire le film, parce que nous, il l'a fait 30 fois, dans l'histoire, M. Bernard est déjà intervenu dans la situation, soi-disant en médiation, or il a été en soutien, M. Dumortier. Donc il n'est pas neutre. Voilà. Donc ça, peut-être que ce n'est pas par ce biais-là que ça doit se faire.
On a, excuse-moi Olivier,
je t'en prie.
Juste pour ajouter, M. Huss, à la DEF, on a d'autres agents qui sont en souffrance. Et oui. Avec des liens. Il y a des liens par rapport à ce type de manager, d'encadrant.
Et lui, voilà. directement.
Comme M. Dumortier.
Ouais.
Voilà. Donc, et je pense que vous avez été. Alors je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Un autre syndicat que le nôtre a d'ailleurs fait un formulaire d'observation et suggestion par rapport à ce qui se passait, à la souffrance des agents de la DEF. Donc, voilà.
C'est particulier à DEF, hein. Vous voyez le bâtiment quand on se balade dans les bâtiments, alors nous en particulier, alors qu'on a un aura assez important là-bas, malgré le fait que c'est beaucoup d'administratifs, les gens ils font attention de pas parler en public à nous. Il y a une sorte de chape. C'est ce qu'on trouvait à un moment donné à la RH, que maintenant c'est un peu plus libéré. Mais à la DEF, c'est encore fort fermé. C'est-à-dire que quand on va dans les bureaux, qu'on se promène et qu'on parle de manière libre avec les collègues ferment la porte ou nous rappellent après. Enfin, il y a une ambiance très lourde à la DEF depuis tout le temps, hein. Enfin je veux dire c'est pas ces derniers mois, hein. Ça a toujours été très compliqué, alors peut-être aussi la config des bureaux, j'en sais rien, mais en tout cas je pense que, enfin très clairement nous on pense que c'est aussi lié à une certaine forme d'encadrement, de fonction d'encadrement qui est exercée là-bas, qui est menaçante, quoi, qui est...
Oui, et Monsieur Kaoul, il vous a fait part aussi, il l'a fait à travers ses écrits d'un certain nombre de dysfonctionnements internes, de choses qui n'étaient pas tolérables.
Hein, mais c'est ça qui lui a valu.
En tant que fonctionnaire, on ne peut pas tolérer ce type
mais
de
choses. Mais c'est ça qui lui a valu d'être ostracisé.
Voilà, et la direction, puisque M. Dumortier a été soutenu aussi par la direction à un moment donné, a voulu se débarrasser de M. Kaoul. Hein, voilà.
Mais ça doit être l'enquête qui doit pouvoir déterminer ça, à travers les faits qui ont été portés et à travers ce que M. Kaoul a essayé de révéler. C'est une réorganisation interne du service que M. Kaoul, on lui a demandé. Il devait faire tel travail, on lui a demandé de faire tel autre travail, ce qui n'était pas un problème pour lui. Hein. Ouais, mais il a interrogé le sens et à partir de là, ça a été hyper violent. Et ça a été violent même verbalement et physiquement, puisqu'il y a eu des injures posées par M. Dumortier. Quoi.
Les éléments, vous avez déjà une bonne partie des éléments hein, à travers les écrits de M. Cavalier.
Ouais, tout à fait.
Après, c'est de les confronter à une enquête, voir s'il était dans le fantasme ou pas. En sachant que la particularité là-bas, c'est de recueillir les témoignages, il va falloir sécuriser ça pour que les collègues aient cette possibilité de libérer leurs paroles. La deuxième chose par rapport au disciplinaire, qui est très importante pour nous, c'est concernant la situation de M. Mariette. On vous a envoyé un courrier un peu avant l'été, argumenté. On a pris le temps de le faire, de peser chaque mot, on vous l'a dit, je pense que le jour même où on s'était eu par rapport, vous m'aviez appelé là, c'était la fin du droit de retrait de Bailleul. Ouais. Je vous avais expliqué à ce moment-là au téléphone que M. Mariette, nous on le connaît depuis très longtemps. Et que ce monsieur avait sévi sur le Dunkerquois. Et quand il a été annoncé qu'il retournait sur la DTFM, on a eu beaucoup de collègues qui nous ont recontactés. Et des collègues qui l'avaient connu et qui avaient demandé des mobilités suite à ça. Et des collègues qui étaient longtemps en arrêt. C'est quelqu'un qui est violent. Nous on considère et on l'assume que c'est pathologique. Voilà. De manière un peu plus rigolote, on appelle ça le syndrome de la limace. On suit à la trace ce monsieur depuis mais très longtemps. Monsieur Schaeffer était à ce moment-là directeur de l'action sociale et on lui en parlait déjà. On lui en parlait déjà. Donc ça remonte à très très longtemps. Nous on pense que c'est quelqu'un pour le coup qui doit sûrement être protégé. Parce que c'est pas possible de continuer à pouvoir sévir comme ça.
Pour avoir fait autant de dégâts là où il est allé.
Exactement, mais des dégâts, mais il y a eu des tentatives de suicide hein, qui n'ont pas pu être mis en évidence parce que c'est des collègues en arrêt chez elles, consécutivement à à ses actions qui fait que des collègues sont ses agissements. La nouveauté, là, c'est qu'il y a une équipe entière qui a pris conscience de la situation. Quand il est arrivé à Bailleul, nous, on prévient. Attention. Voilà, on vous dit, attention. Et la réponse des collègues, on va lui laisser sa chance. Ils lui ont laissé sa chance. Et d'ailleurs, des collègues, encore il y a peu, il y a encore un an, pensaient qu'ils pourraient changer, ou alors que c'était à la marge, ces agissements, etc. C'est l'état de l'une des collègues, là, notamment de la responsable adjointe, là, oui. Secrétaire, qui a alerté tout le monde. Mais c'est pas possible, quoi. On la connaît, c'est une collègue qu'on a avec qui on bosse depuis des années, c'est quelqu'un de solide. Putain, mais elle est détruite, quoi. Elle vient de reprendre tout juste le travail sur la pointe des pieds, la collègue. Elle est fort abîmée, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, c'est une réaction à la fois de collègues de protection et à la fois de témoins, parce que des collègues ont elles-mêmes aussi été touchées par ce monsieur. On est déjà intervenu il y a 2 ans auprès de la DT de l'époque. Bah, c'était Madame Sicard Calca qui était DT à ce moment-là. Par rapport à l'adjointe de PMI qui subissait ses foudres, il a été contenu. C'est quelqu'un qu'on arrive à contenir sur du court terme. Ne serait-ce que nous, quand on balance des heures d'info syndicale tous les mois, bah, il fait gaffe, quoi. Il fait gaffe. Là, ça c'est, comme vous l'avez vu, ça a débouché sur ce droit de retrait, qui est quand même s'il y a régulièrement les droits de retrait dans la maison, les droits de retrait de cette envergure-là, avec un droit de retrait total, où les collègues mettent plus les pieds dans le bâtiment, c'est rare. Ça s'est déjà produit sur Haubourdin-la-Bassée il y a quelques années, par rapport à une cadre qu'on a déplacée aussi. Là, ce n'était pas arrivé depuis un moment. On a produit un rapport au mois de février, suite à une entrevue entre la DT et... février ou mars, je ne sais plus. Entre la DT et les collègues. Rapport où on met énormément d'éléments, circonstances, avec même des citations. Une extension, on a repris ce que avaient dit les collègues. Ce rapport-là a été envoyé, aucune réponse. Les collègues, à mon avis, on arrête, vas-y. Ils ne nous protègent pas, on va se protéger nous-mêmes. Le DT revient sur place et en termes d'enquête, en guise d'enquête administrative par rapport au droit de retrait, relie notre rapport, rapport qui a été à nouveau validé par les collègues présents en disant « Oui, c'est en tout point ce qui est notre quotidien ». Rapport qui n'a absolument pas été remis en question par la hiérarchie, par l'administration, qui que ce soit, à aucun moment ce rapport-là n'a été remis en question, le contenu. Ce monsieur, on nous annonce que, comme par hasard, il a demandé sa mute, ah, personne n'est dupe. C'est bizarre, le mardi du droit de retrait, il demande sa mute, et le jeudi, on dit ouais. Donc, personne n'est dupe, je vous l'ai dit. Par contre, ça ne peut pas rester sans conséquence, quoi. Ça ne peut pas rester sans conséquence, surtout quand on regarde dans le même temps qu'en 3 mois et demi, chose qui ne s'est jamais produite, il y a eu 5 conseils de discipline pour des agents de catégorie C pour des faits mineurs.
Ça, c'est du...
Qu'on a démonté, d'ailleurs, pour la plupart. On est dans la boîte depuis 2014 et on est élu à Sud depuis 2009. D'accord ? Donc entre 2009 et maintenant, et il y a encore un an, il y a eu 2 conseils de discipline. 2. Un pour un agent de catégorie A, qui a été d'ailleurs révoqué, et un pour un agent de catégorie C, agent du collège. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sous Monsieur Picard, c'était il y a 1 ou 2. Et là, 5 en 3 mois et demi, quoi, avec des choses hallucinantes. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur le contenu des faits qui leur étaient reprochés. Sur les 5, il y en a 4 qui ont été... le juge du TA qui vient, il hallucine, hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'on leur reproche, quoi ? Et il y a eu abandon des sanctions. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, là, au niveau de l'ARH, on ne sait pas à quel niveau ça se joue. Il y a une multiplication des conseils de discipline pour uniquement des agents de catégorie C. Et quand on met en évidence que d'autres agents à responsabilité ont fauté, notamment M. Mariette, c'est... Putain, mais on ne peut même pas nier la réalité, ça va être très compliqué de la maquiller ou de la nier. Et bien là, il n'y a rien qui se passe. Et nous, on insiste sur le fait... Et puis même par respect vis-à-vis de M. Mariette, ce serait l'occasion pour lui de se défendre. Mais on pense là qu'il faut pas déguiser une mobilité ou faire même une mobilité à l'intérieur du service, parce que ça serait une sanction disciplinaire déguisé, mais qu'il y ait une réelle procédure de disciplinaire au regard de ce qui s'est passé sur Bayeul. Ça va être difficile de faire probablement remonter, et encore, nous, on a toujours espoir qu'à un moment donné, les collègues arrivent à témoigner sur ce qui s'est passé avant, mais sur Bayeul, on a tous les éléments pour pouvoir mettre en place une... au moins une procédure disciplinaire qui aboutit à quelque chose ou pas. Hein.
Bien sûr.
Après, il y a un conseil de discipline. Voilà. Mais nous, ce qu'on on peut pas laisser passer le fait qu'il se passe rien. C'est pas possible. D'autant que la DTFM et la DTFI vont fusionner. Il y a des choses qui sont annoncées là dans l'organisation. J'imagine que ça va passer en CT d'ailleurs, parce que voilà, il y a des choses qui sont déjà annoncées sur le terrain. Ce monsieur, il est là, quoi. Bon, on sait qu'il a des liens privilégiés, notamment avec M. Jeanne. Je pense qu'ils sont potes, en fait, hein, pour parler clairement. En tout cas, c'est ce qui se dit sur... Nous, on l'a pas vérifié. Hein. C'est ce qu'on nous renvoie hein, sur le terrain. Par plusieurs personnes. Hein, voilà. Après, c'est pas grave. Hein, ils ont le droit. Hein, c'est pas le problème. Mais en tout cas, ça pose question. Nous, on attend vraiment une réponse par rapport à notre courrier, parce qu'on vous a pas juste dit qu'il faut lui mettre une sanction aux fesses. On vous a expliqué pourquoi, on vous a même donné des arguments juridiques, et puis on a tous les éléments factuels pour pouvoir mettre en place ça.
Je ne me suis pas précipité sur ce sujet, parce que d'abord, ce qui était important, c'était l'équipe. Donc, c'était retrouver de la stabilité, trouver un nouveau pilote, mais qui soit capable effectivement de reconstruire quelque chose, parce qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est que l'équipe était atteinte hein, par ce qui s'est passé. Ouais. Donc, ce n'est pas des petites choses. Moi, ce que vous disiez aussi, c'est que M. Mariette, vous avez raison, hein, voilà, on lui a demandé quand même de dégager à un moment donné. Donc, bon, officiellement, c'est une demande de mobilité. Bon, voilà, on a fait en sorte quand même qu'il puisse partir rapidement parce que c'était la première réponse à porter. Bon, moi, on m'avait aussi alerté sur le fait que, bon, M. Mariette, bah, très bien, il a quand même. Alors, c'est clair qu'il n'était pas conscient toujours de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais bon, il s'est bien rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et que, voilà, avoir l'ensemble de l'équipe contre soi, c'est qu'il y a quand même un sujet. Quoi. Donc, voilà, moi, on m'a aussi alerté sur le fait qu'à un moment, il n'était peut-être pas toujours très judicieux de tout de suite alimenter.
Mais pourquoi on le fait par ailleurs, alors, monsieur Huss? Pourquoi on mène une enquête? Il y a une enquête administrative. Là aussi, les enquêtes administratives, c'est rare hein, dans notre boîte. Hein. Il y en a une cet été vis-à-vis d'un collègue qui est sur Maubeuge.
Sur la discipline, en tout cas, puisque. Sur le disciplinaire, quand vous regardez notamment même ceux effectivement qui n'ont débouché sur rien, parce que ce sont quand même des trucs qui dataient depuis un petit moment. Hein.
Ouais, on était limite à la prescription.
Tout à fait. Parce que finalement, moi notamment, je pense aux agents de voirie.
Ouais, c'est hallucinant ça.
Bon, c'est quand même un truc qui a été démarré avant que je n'arrive. Hein.
Oui, mais peu importe.
Non, mais ça veut dire que vous imaginez déjà le délai. Et effectivement, en plus pour des faits où on n'avait pas grand chose.
Bah oui, surtout qu'ils avaient l'accord du cadre.
Voilà. Et je pense que.
Bon, voilà, donc moi, l'histoire de. Mais de toute façon, moi je ne veux plus. Je veux plus qu'on procède de cette manière. C'est pas possible, quoi. Enfin, et puis d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi qu'on mette davantage la hiérarchie, y compris le vice-président des ressources humaines, puisqu'en réalité, il y a un certain nombre de choses qui ont été engagées dans l'entre-soi, c'est-à-dire de direction à direction. Sans forcément aller beaucoup plus loin dans le partage d'informations auprès notamment des élus et de moi-même. Donc ça aussi, ça doit, en termes de procédure même, ça doit changer.
Voilà, donc, mais là, vous n'avez pas attendre 3 ans par rapport à M. Mariette.
Non.
Mais non, vous comprenez un peu le truc. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui est malveillant depuis des années. Oui. Et là, on a pu matérialiser les faits. On les a matérialisées, mais de manière indiscutable, et en plus, elles ont été indiscutées. Donc, la responsabilité, c'est d'en trouver quelque chose.
Moi, je veux que les choses se fassent proprement. C'est-à-dire que.
Nous aussi, hein.
Quand on m'alerte, qu'on me dit que M. Mariette ne va pas bien non plus, alors bon, même si par ailleurs, il y a peut-être. Oui, non, mais attendez, moi, j'ai pas envie d'être responsable d'un suicide parce qu'à un moment donné, le type se sent acculé. Quoi.
On est d'accord
pour parler très clairement. Donc, c'est ça aussi, vous voyez, oui,
ouais.
Voilà, enfin, même si. Encore une fois, il y a des...
Cette délicatesse-là n'existe pas. Elle est à géométrie variable. On a un collègue, assistant social, qui fait l'objet d'une... Nous, on le qualifie comme ça, hein, même si c'est une qualification pénale, d'un process de harcèlement. Voilà. Depuis pas mal d'années, vis-à-vis de son chef de service. Parce qu'il ne se laisse pas faire. Par le responsable d'unité territoriale. On a des éléments pour ça. C'est-à-dire qu'on a... On a dû plusieurs fois l'accompagner dans des entretiens, qu'on a à chaque fois conclu par des rapports qui n'ont jamais été démontés. On a des entretiens d'évaluation qui se passent mal à chaque fois, avec des entretiens de conciliation, ouais, refusé. Et notamment refusé.
Refusé par la hiérarchie, hein. On a tout consigné par écrit, monsieur. C'est le dossier de monsieur Yves Paluskevitch. Vous avez été destinataire, vous avez été mis en copie de notre interpellation de... C'était juillet.
Tu parles juillet. De quoi pour l'enquête administrative?
Ouais.
Ouais, c'est cet été, c'était au juillet, ouais. Donc, avant mes congés.
Il y a possibilité de tracer tout depuis le début, quasiment le début de ce process, où, effectivement, on cherche des poux à d'autres collègues. Le problème, c'est qu'à chaque entretien, soit il y a un refus de dialoguer et de mettre les choses sur la table de la part de la hiérarchie, et lorsque ça c'est fait par l'intermédiaire d'une note à la DRH. Qui s'en est suivi par un entretien, une convocation à un entretien. Ouais. Hein, donc nous avons accompagné M. Paluskevitch, notre collègue, à nouveau, en avril dernier, pour qu'il puisse s'expliquer par rapport au point qui était évoqué, ce qui lui était reproché par le RTU. Il s'en est expliqué, preuve à l'appui, c'est-à-dire qu'on lui avait conseillé déjà depuis un moment de tracer tout ce qu'il faisait, tout ce qui était dit, etc. Puisqu'il avait été déjà évoqué en CAP recours l'année dernière.
Il est passé en CAP recours l'année dernière, oui.
Hein, par rapport à ce qui s'était passé, c'est-à-dire le refus d'entretien de conciliation de la part de la hiérarchie, hein, qui était demandé. J'étais présent à cet entretien, hein, de conciliation, ouais. Donc j'ai fait une interpellation d'ailleurs à M. de Tavernier pour témoigner de tout ça, et j'étais présent aussi à la CAP recours. Pour témoigner de tout ça, et donc il s'en est expliqué, preuve à l'appui, avec des traces
ça, c'était au mois de juin, ça.
Écrites au mois d'avril.
Avril, pardon.
C'est-à-dire que toutes les accusations de la part du RTU ont été démontées par M. Paluskevitch. La collègue de la DRH qui était chargée de ça... qui fait ce qu'on lui demande, hein, dit bon, okay, je vais convoquer monsieur le RTU, pour qu'il puisse s'expliquer par rapport à ça, que je puisse avoir sa version. Monsieur Paluskevitch est ressorti de là consterné, parce qu'il y a des choses qu'il avait apprises en direct, c'est-à-dire qu'il ne lui avait pas été signifié par le RTU, hein, auparavant. C'est-à-dire, voilà. Des éléments qu'il a découverts, qu'on lui reprochait, qui n'avaient pas été évoqués par sa hiérarchie de proximité auparavant. Il est ressorti de là, consterné, affecté, je peux vous le dire. J'ai cru qu'il allait pleurer en fin d'entretien. C'est pas le genre de personne à s'épancher comme ça, mais je pense que ça l'avait vraiment impacté. Et cet entretien de conciliation qui n'a pas eu lieu, qui a été violent, puisqu'il a duré en tout et pour tout 10 minutes, l'année dernière, il était sidéré, quoi. Je ne l'ai jamais vu comme ça.
Bah nous aussi, d'ailleurs.
Et nous, on n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais vécu un entretien.
On n'a jamais vécu ça.
Comme celui-là. Jamais, jamais. D'ailleurs, je l'ai signifié par écrit. Et on peut vous envoyer les pièces si vous souhaitez. Donc, on s'est dit, en sortant de là, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. En plus... Tout avait été tracé. Monsieur Paluskevitch a des collègues qui étaient témoins aussi de voilà, par rapport à certaines situations, certains événements qui étaient cités dans l'écrit du RTU. Donc voilà, il est ressorti de là relativement tranquille. On s'est dit, bon voilà, c'est tout, on va passer à autre chose. Mmh. Hein, la DRH, comme elle l'a déjà fait précédemment, hein, puisqu'on a accompagné d'autres collègues qui également, dans le cadre d'une investigation, suite à un courrier de la hiérarchie, voilà, devait s'expliquer sur certains points. Donc on s'est dit voilà, qu'il n'y aurait pas de suite à nouveau. Au mois d'août,
juillet.
Mois de juillet, on commence à avoir des appels de certains collègues qui nous disent... qu'on leur apprend, enfin la chef de,
on leur
chef
dit, de service qui on leur dit présent. Une réunion jeudi est obligatoire,
voilà.
L'ARH vient, c'est une enquête administrative, on ne dit pas sur quoi elle porte, on ne dit pas sur qui elle porte, les collègues se doutent que c'est, alors dans les bruits de couloir, ça c'est le discours porté par la chef de service, dans les bruits de couloir c'est ça porte sur Yves, le collègue, qui n'est pas parfait, hein, je veux dire, personne ne l'est, mais le problème, c'est qu'il interroge sans cesse le sens. Je pense que c'est surtout ça le problème par rapport aux différents qu'il a par rapport au chef de service. Ils ont attendu qu'ils soient en congé le vendredi pour débarquer le jeudi qui suit dans une réunion qui est présentée comme obligatoire par la hiérarchie. On a dû intervenir pour dire qu'elle ne pouvait pas être obligatoire. On ne peut pas obliger des gens à participer à une enquête administrative. Ce que M. Bernard a dû rectifier en disant non, elle n'a pas de caractère obligatoire. Enfin bon, il a fallu qu'on intervienne pour c'est pas en protection par rapport aux collègues, c'est en protection par rapport à ce qui se met en place. En fait, au-delà du fond, sur lequel on a des éléments à vous communiquer, mais c'est pas trop le sujet, c'est la forme. C'est la disproportion entre la manière dont on va considérer un agent d'exécution, que ce soit de catégorie B, bon lui il passait A comme nous d'ailleurs au mois de février, mais que ce soit, non c'était l'année dernière déjà, des agents de catégorie A, un agent de terrain, et des agents de catégorie C, par rapport à quelqu'un qui a des responsabilités, donc pour nous de fait des circonstances aggravantes, d'encadrement. Il y a un traitement différencié. Et nous, c'est ça qu'on veut vous mettre en évidence et attendre qu'un collègue parte en congé pour pouvoir se pointer dans le service
et
provoquer des auditions, etc.
C'est gratter, il faut
qu'on verra sur quoi ça débouche, c'est un autre sujet.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le collègue ?
On verra sur quoi ça débouche et ça, sur le fond, on verra. Mais là, c'était plus sur la forme, vraiment sur le traitement différencié qui existe. Parce que des enquêtes administratives, il n'y en a pas beaucoup. Et il y aurait dû déjà en avoir une pour M. Dumortier qui n'a pas eu lieu. Par contre, on en fait une sur ce monsieur-là, à Maubeuge. Donc voilà, nous, on vous alerte là-dessus. On aimerait bien vraiment avoir une réponse sur Bailleul. Vous entendez ce qu'on vous dit par rapport à M. Mariette. On a entendu que vous voulez y aller de manière délicate, compte tenu de ce qu'on vous a fait remonter en termes de fragilité. Nous, on pense que c'est du vent, ça, hein, sincèrement. Hein. Non, mais sérieusement, hein. On pense que c'est du vent. C'est quelqu'un qui a déjà été recadré, notamment par Mme Sikarkalka, qui avait pris ses responsabilités à l'époque, qui avait utilisé des mots très durs à son encontre, mais réalistes. Hein. Je pense que on vous amène d'ailleurs, enfin pourquoi pas, parlez-en avec elle, si vous avez l'occasion de ce monsieur. D'ailleurs, ça serait intéressant qu'elle ait son mot à dire, peut-être, si quelque chose qui est mis en place, puisqu'elle a été son supérieur hiérarchique. Et elle a dû intervenir en disant que ce monsieur ne pouvait déjà plus être en position de managériale. Et ils ont essayé de faire du coaching, mais bon, ça ne marche pas hein, sur ce type de personnalité. C'est pas possible. Donc, c'est un peu comme M. Nulou, quoi, mais à des degrés divers. C'est-à-dire que c'est aucune remise en question possible. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a des actes graves qui sont posés et qui doivent, de notre point de vue, être sanctionnés ou tout au moins investigués quoi, dans le cadre d'une procédure.
Étonnamment, le fait que Mme Sicard, parce que c'est enfin, je veux dire, on ne va pas parler utiliser la langue de bois, hein, M. Huss. Mme Sicard a été débarquée à un moment donné. Hein, de ses fonctions de directrice territoriale. Quelques temps après, voilà, monsieur Mariette, c'est à nouveau déchaîné, quoi.
Nous, on pense qu'il est protégé, mais bon, après...
Elle jouait le rôle de garde-fou, elle essayait de protéger aussi ses agents. Et ça lui a été reproché, ça. Ouais. Vous êtes trop proche de vos agents. Vous les protégez trop. Ça lui a été reproché.
C'est troublant, le départ de Mme Sicard de la DTFI.
En tout cas, monsieur Mariette, je ne le connais pas. Si il est protégé, c'est pas par moi. Je n'ai aucun.
A priori non, puisque ça fait un moment qu'il est autorisé à fonctionner de cette manière-là.
Mais en tout cas, vous aurez une réponse.
Bon, ensuite, concernant les petits irritants, donc on vous a parlé.
Aimé d'ailleurs je suis destinataire de vos des mails toutes bottes que. De temps en temps, je vous parlais de sujets très graves, mais vous aviez, avant l'été, je crois notamment quand il y a eu effectivement un pic de chaleur, avec beaucoup d'humour, indiqué que les journées optimistes étaient prolongées et que c'était tous à la flotte. Et puis là, effectivement, vous avez indiqué récemment que vous partagez le côté irritant d'un certain nombre de jours. Bon, après, il y a des sujets de fond. C'est le petit clin d'œil.
On milite joyeusement, on n'est pas des rabat-joie. Enfin, on essaye de ne pas l'être, en tout cas. Après, vous nous donnez de la matière, hein, sincèrement, on vous le dit. Là-dessus aussi, on peut vous dire deux mots hein, sur la manière dont on perçoit. Sur ce que vous disiez en intro, sur le fait qu'on arrive à être dans une discussion sur des situations notamment individuelles, là-dessus, on est d'accord, on est d'accord. Après, sur la conception qu'on a de l'organisation du travail et ce qui est décliné, on est frontalement en opposition et il y a qu'à voir comment nous on appelle ça des restructurations, hein, elles sont menées depuis un certain nombre d'années et elles ne changent pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'au départ de M. Picard, il y aurait une pause, et apparemment non, puisqu'on a encore l'exemple, de la direction de la culture là, au printemps, qui subit sa deuxième réorganisation en moins de 3 ans et qui va très très mal de ce fait-là. Nous, vous savez, le luxe qu'on a dans notre activité syndicale et le fait qu'on ait du temps pour l'exercer, c'est que on rencontre des gens intéressants, parfois même des scientifiques qui portent une analyse qui est discutable, hein, mais qui portent des analyses sur l'organisation du travail depuis des années, et on est sidéré de la manière dont certains d'entre eux, je pense notamment à Madame Danielle Linhart, qui est sociologue, hein, au CNRS, qui quand elle parle de l'organisation du travail, on a l'impression qu'elle est venue nous voir, en fait. Elle est venue dans la maison. Et en fait, non, elle n'est pas venue dans la maison, mais nous, on considère que ce qui est mis en place ici, d'une certaine manière, depuis un certain nombre d'années, qui continue, ça répond à une logique. Ça répond à une logique, ça répond à une méthode qui est menée ailleurs, qu'on combat. Hein, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et que votre touche à vous, par rapport à M. Picard, qui était le bulldozer, vous, votre touche à vous, c'est de mettre du vernis. On vous le dit, et une forme de vernis bienveillant. Pour le coup, vous communiquez très très bien, vous faites ça très très bien. Ça,
non.
Mais sincèrement,
de la communication.
Ah non, on n'est pas pro de la com. Mais sincèrement, sincèrement, vous communiquez très bien. Après, je pense que vous allez le vérifier, ou vous l'avez déjà en partie vérifié. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Il y a un décalage entre le décor. Le décorum que vous donnez et la réalité perçue, ce qui est parfois d'ailleurs qui peut générer énormément de souffrance d'ailleurs, hein. Le décalage entre ce que je vis et ce qu'on me décrit comme étant censé être la réalité, ça peut être assez violent.
Bah, ça peut créer une dissociation.
Oui.
Chez les agents, quoi.
D'ailleurs, ça a été porté par certains sociologues là-dessus, notamment. Alors, on ne va pas faire un rapprochement rapide, mais notamment par rapport à la situation de France Télécom, où il y avait entre le discours et le discours ambiant et la perception et la réalité vécue, il y avait un fort décalage qui a généré énormément de souffrance. Là, par exemple, les journées de l'optimisme, ça nous a fait sourire. Le bonheur au travail, on se demande si à un moment donné, ça va devenir une... Peut-être qu'on sera évalué aussi sur notre capacité à être heureux au travail dans les prochaines évaluations. C'est artificiel. Pour nous, c'est artificiel. Et ça ne peut être qu'artificiel qu'à partir du moment... Ça pourrait ne plus l'être, hein, mais ça ne peut être qu'artificiel qu'à partir du moment où, dans l'organisation du travail qu'on met en place, on continue à générer de la souffrance. Et on continue à générer de la souffrance. D'ailleurs, je dirai après, mais les journées de l'optimisme, là, une semaine... Enfin, par exemple, on va donner l'exemple de la DMG. La DMG, dans le cadre de la semaine de l'optimisme, les collègues sont venus nous voir, ils étaient entre à la fois atterrés et à la fois... j'arrive pas à décrire leur réaction. Mais à la DMG, il y avait notamment une journée ou deux sur les agents du talent. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, il y avait... C'est le mardi de la semaine, je pense, hein, de mémoire. Il fallait se réunir au sein de la DMG autour de M. Berthoud, qui a du talent énorme, d'ailleurs, musical. Hein. Pour parler de ses talents, de ses hobbies, etc., etc. Et ben, c'était une réunion obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui considèrent maintenant, moi, je n'ai pas très envie. Et ben, ça a été rendu obligatoire. C'est-à-dire qu'on a obligé les agents à participer à cette réunion. Et ça nous a été rapporté par plusieurs collègues de la DMG. D'ailleurs, à la DMG, on en parlera, il y a un climat particulier. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on veut créer, très clairement pour nous, hein, après on n'est pas d'accord, mais on décrète le bonheur, on décrète l'optimisme, Et ça se décrète pas, ça se vit, et c'est du vernis. C'est du vernis.
Ça doit se générer, votre avis.
Oui, bien sûr.
Oui, oui, c'est notre avis. Après, on pense, on dit pas que vous n'y croyez pas vous-même. Mais on peut pas y croire à partir du moment où, en parallèle, on continue à générer de la souffrance par une organisation du travail qui est soit en matière de ressources humaines en tension continuelle, soit dans la manière dont on appréhende le fonctionnement, l'encadrement, le management. Hein.
Mais fondamentalement, très descendant. Pourquoi je me casse aussi parfois la tête à essayer de bouger un peu mes directeurs, de faire du terrain aussi. C'est parce que c'est sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique qu'il faut aussi que tout ça infuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, c'est pas parce qu'ici, du sixième étage, on décrète qu'il faut de la bienveillance, de la qualité de vie au travail, qu'il faut du dialogue, etc., que par enchantement, les choses changent. Non, au contraire, effectivement, c'est un gros travail. Ouais. C'est un travail, mais qui doit se faire justement dans la durée. Moi, c'est une perception que vous avez. Je ne suis pas dans une stratégie de dire, bon, bah écoutez, on va continuer effectivement le bulldozer, mais en y mettant un peu de.
Pour mettre du fun.
Forme, du fun et du vernis.
La DGA PEPS. Non, mais sans déconner, on a rigolé. Hein.
Oui, je sais.
Parce que derrière, on a parlé au CT, mais il y a des concepts qui sont pour nous très incompatibles avec le service public. Hein, la notion de potentiel, la notion de performance. C'est des choses qui sont totalement.
Moi, sur la performance, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose. C'est tentant pour certains dans l'administration en général, en fonction publique, de parler de performance et d'y mettre effectivement des services de performance, etc. C'est pas mon credo, ça, je peux vous le dire. Et je pense jamais vous avoir évoqué le
pas vous directement.
De performance, etc. Ça, c'est clair.
Madame Fournier, oui.
Madame Fournier, elle est hiérarchie.
Oui,
voilà. Et donc, elle doit aussi, de temps en temps, être. Partager, et puis parfois on ne partage pas justement un certain nombre de choses. Moi, ce que je veux dire, typiquement sur la DGPL, c'est que vous avez raison, au-delà des mots, au-delà du côté marketing du truc et du côté. Si derrière, j'ai pas moi très concrètement des opérations, mais du concret, quoi, des actions concrètes pour les agents. Si derrière la DGPL, c'est juste un truc qui fait beau sur un organigramme, on aura complètement raté le truc. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, j'ai un enjeu aussi là-dessus. Et pourquoi je mets un peu gentiment, mais la pression quand même à cette DGAPEP. Parce que si c'est juste pour se faire plaisir, et puis pour de temps en temps faire un truc sur le quotidien et compagnie, on aura tout raté. Tout raté. Ça, et je partage amplement votre analyse là-dessus. Il ne s'agit pas de. Donc, voilà, il faut du concret. Il faut du concret pour les agents.
Oui, mais vous pouvez. Je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas. On est prêt à croire à votre sincérité, vraiment, mais mais c'est pas possible, soyons réalistes, c'est pas possible avec la conception qu'a cet exécutif, notamment le VPDRH,
qui nous fait halluciner, hein, enfin je veux dire,
de ce que doit être l'organisation du travail et le boulot plus globalement dans un service public tel que le département. C'est contradictoire. Mettre de la bienveillance, du fun ou du vernis, ou même mettre de la bienveillance sur une organisation du travail qui est contraire, enfin ce sera un échec, ou alors c'est de l'enfumage. Pour l'instant, nous on dit que c'est de l'enfumage. Bah oui, parce que enfin on n'est pas dupes, quoi, je veux dire, enfin c'est pas qu'on veut pas croire à votre sincérité, non, mais
c'est par les actes
de toute façon. Et donc vous avez raison, en attendant, on a encore un peu de taf, et c'est pour ça aussi qu'on est. C'est qu'à un moment donné, je partage avec vous le fait que tout n'est pas rose dans cette collectivité.
Un exemple, pourquoi, par exemple, dans cette administration, on considère le CHSCT comme une instance mineure. Vous êtes membre du CHSCT, vous n'y venez jamais. D'ailleurs, ce n'est pas propre à vous, hein, puisque vos prédécesseurs ne sont jamais venus. Monsieur Rex est déjà venu sur des situations très compliquées. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ici? Le DGS ne met jamais le pied. Il vient au CT, mais il ne vient pas au CHSCT. Or, au CHSCT, il y a énormément de choses qui sont déposées. Enfin, moi, je n'y siège pas, mais il y a Jonathan et Valérie qui siègent. Énormément de choses qui sont déposées sur, justement, la question du bien-être des collègues dans le cadre de leur boulot. Et des conséquences... mais palpable, factuel, de ces réorganisations du travail, les accidents de travail, est-ce qu'on a tout mis en œuvre, vous n'y êtes pas. Et vous n'y êtes pas, et votre haute administration, c'est pareil. soit n'y est pas, soit n'en prend pas compte, ou soit la nie. La DIRCOM, qu'est-ce qui s'est passé à la DIRCOM? C'est hallucinant. Enfin, nous, on a halluciné.
Quoi.
Non seulement de ce qui s'est passé, mais en plus du mensonge qui a été porté, quoi. Comme quoi.
CHSCT. Alors là, pour le coup.
Ça aussi, déménagement.
J'avais pas encore vu ça.
À ce point-là, jamais.
J'avais pas encore vu ça. Et mentir éhontément. Enfin, je veux dire, nous dire que tout avait été fait dans les règles, hein, on avait respecté les procédures internes en termes de, enfin, pour ce déménagement, ce qui est, enfin, preuve à l'appui. Donc, je pense que vous avez été aussi destinataire, hein, de nos interpellations et de nos courriers.
On a des photos, des témoignages.
Je veux dire, on a des photos, on a des témoignages.
On a même des collègues qui ont été.
Ça a été fait.
On a même des collègues qui ont été convoqués par leur cadre parce qu'elles nous ont fait remonter des choses.
Au niveau des bâtiments. Parce que les collègues me disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, on déménage. Hein? Ça va pas assez vite. Bon, bah, on, voilà. Et monsieur Huss, on a, là encore, je veux dire, alors nous, on a demandé à avoir effectivement les preuves de ce que nous avançait cette directrice. On les a jamais eues.
Bah non,
jamais. On a interpellé monsieur de Tavernier. Et de toute façon, au CHSCT, monsieur de Tavernier n'a pas pipé mot. Puisqu'on l'a interpellé à un moment donné, n'a pas pipé mot. Je pense qu'il était très mal à l'aise aussi. Hein, parce que parfois, il ne se prive pas aussi pour essayer de, voilà, de rabrouer certains représentants du personnel qui sont un peu trop véhéments. Mais là, pour le coup, on a des collègues qui ont été malmenés. Déjà, par cette réorganisation qui est passée en CT, hein, vous connaissez... qui est également discutable, et vous connaissez nos positions par rapport à ça. Hein, et là, en plus, un déménagement, mais improvisé, quoi. Hein, on sait très bien, on connaît aussi ce type de management, hein, qui n'est pas, c'est pas dû au hasard, c'est pas du fait d'une personne, c'est aussi une technique aussi pour déstabiliser les gens et les faire partir, hein, à long terme.
D'ailleurs, la DIRCOM, il y a énormément de départs.
Voilà.
Donc,
on a des collègues qui vont pas bien, et je peux vous dire qu'on est passé à côté, parce que rappeler la réglementation en matière de déménagement, etc., et les procédures qui, enfin, au niveau hygiène et sécurité, conditions de travail, qui sont pas là pour juste embêter une directrice, hein, mais on a quand même frôlé.
Il y a un agent qui s'est blessé.
Voilà. Il y a un agent qui s'est blessé, monsieur Huss. Et qui n'a pas, c'est vous dire l'ambiance dans cette direction, qui n'a pas osé faire la déclaration.
Il s'est pris une armoire sur la tête, en fait.
Il s'est pris un meuble sur la tête, quoi, pendant ce déménagement.
Alors, c'est vrai que ça vous échappe, la DIRCOM, hein, c'est rattaché au CAB, mais c'est pour vous donner un exemple, quoi. Là, c'était l'exemple le plus criant.
Je suis membre du CHSCT, je peux vous dire que c'est pas forcément une mauvaise volonté, hein. On a des agendas, je pense, très très chargés, mais je ne dis pas que je dirai jamais en CHSCT.
Mais c'est étonnant, c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est que les DGS ne viennent pas. Ils viennent au CT, vous venez à tous les CT, vous allez sur le terrain, vous y passez du temps sur le terrain, mais le CHSCT, non, alors que c'est une instance majeure, donc il voulait disparaître, hein, malheureusement, avec la nouvelle loi qui est sortie cet été. Mais qui pour l'instant existe toujours, je pense qu'elle existera jusqu'à la fin du mandat, c'est une instance où il y a énormément de choses qui sont portées.
Il y a des PV aussi pour ça, enfin, moi je suis quand même... J'ai quand même une littérature assez intéressante.
Vous savez très bien ce
qu'on
et on n'est pas les seuls pour le coup.
C'était pas l'objet de rouvrir le débat sur ça.
Non, il n'y a pas lieu.
Vous n'avez pas, vous qui n'assistez pas donc à ces instances.
La teneur des débats qu'il peut y avoir.
Ne pensez pas, vous avez les éléments, en tout cas tout ce qui a été débattu, et avec les éléments précis, les positions de chaque partie et chaque participant dans ces débats et ces discussions, en lisant ces PV.
Faites l'expérience.
C'est une erreur.
Venez à un CHSCT et regardez le compte rendu, et vous verrez que la teneur des débats, elle n'est absolument pas retranscrite dans les PV de CHSCT.
Et d'ailleurs, au niveau des PV, le secrétariat CHSCT refuse de les signer, ces PV.
Depuis un moment.
Depuis un moment, puisqu'il ne reflète pas.
Ça gêne pas.
Il ne reflète pas ce qui a été dit.
Et le secrétaire CHSCT, c'est pas nous, pour le coup.
Voilà. Non, pas vous reprocher.
Ah non, c'est pas nous.
Non, mais il faut le préciser.
Enfin, c'est plus nous. Juste pour finir sur les immersions, parce qu'on l'a juste évoqué.
Oui.
Nous, on vous le redit, on pense qu'au début, c'était une bonne chose, notamment pour un public particulier de collègues, notamment celles et ceux qui étaient sur des questions de reclassement. Alors, pas reclassement au terme statutaire, puisque le département, depuis un certain nombre d'années, essaye de mettre en place des reclassements qui ne sont pas, pour le coup, statutaires, qui sont de l'ordre de la mobilité adaptée, on va dire ça comme ça, adaptée au handicap, adaptée, voilà. Et là, pour le coup, les immersions avaient du sens. À partir du moment où elles étaient bornées, à partir du moment où elles étaient limitées dans le temps, et à partir du moment où ça prenait aussi en compte la situation des collègues. Les immersions, elles ont commencé ça a commencé à partir en cacahuète au moment où il y a eu toute la restructuration. Depuis 2016, où des services sont fermés. Et la plus flagrante, c'est la question de la crèche, où il a fallu reclasser des collègues qui, en plus, ont des spécificités, puisqu'elles sont aussi aires de puériculture. Et donc, certaines ont été bien reclassées parce qu'on s'est battu pour que défendre l'idée qu'il puisse y avoir, mais ça, c'est un nombre limité, des auxiliaires de puériculture en PMI. Ça a du sens. On n'a pas été suivi par l'administration là-dessus, même s'il y a une ou deux collègues qui ont réussi à avoir ce type de poste. Pour le reste, des exemples concrets, Emma, tu vas aller agent d'accueil au musée de Cassel. Tu habites à Bayeul. Ouais, mais je ne suis pas véhiculé, ça va être compliqué. Et puis, c'est pas trop. L'agent d'accueil, j'ai jamais fait ça et je ne me sens pas être en prise directe avec le public. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Oui, mais non, tu feras ça. Tu feras ça. Quoi, tu fais pas assez preuve d'audace, tu fais pas assez preuve de curiosité, t'es pas curieuse de voir comment ça pourrait être. C'est des choses comme ça qui sont dites aux collègues. Des collègues qui perdent leur boulot, qui n'ont jamais rien demandé, on leur a supprimé leur taf, notamment dans un service qui existe depuis 35 ans. Voilà, donc en plus, il y a un investissement affectif dans le travail. Donc c'est très violent. Donc ça a commencé à partir en cacahuète là, et ça s'est détérioré fortement quand l'immersion est devenue une méthode de mobilité à part entière. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, l'immersion semble être presque, alors, on n'est pas encore tout à fait là, hein, mais je vais aller un petit peu dans la caricature exprès, comme un passage obligé, où effectivement on se retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des situations hallucinantes, où il y a des collègues qui sont en immersion pendant 2 ans sur un poste, et là on a un exemple là. En immersion 2 ans sur un poste, ils font leur trou, ils font leur boulot, sur des missions adaptées, parce qu'il y a du coût humain, ce qui est bien parfois, du coût humain pour certains collègues, hein, qui ont besoin. C'est là l'intérêt. L'intérêt, s'il y en a un, c'est celui-là. C'est qu'on puisse faire du coût humain en fonction de l'état et de la situation du ou de la collègue. Et au bout de 2 ans, on leur dit, mais par contre, en mars, tu t'en vas. Hein. Ouais, mais moi, vous m'avez mis là. Sur un poste qui a été créé, plus ou moins. Enfin, en tout cas, on m'a mis des missions spécifiques. Et puis, vous me dites qu'en mars, je m'en vais. Moi, j'ai fait mon trou, j'ai fait mon travail, je suis repéré dans l'équipe, je fais du boulot. Il n'est jamais contesté. En plus, il y a des postes qui sont vacants dans le service. Et vous me dites que je pars en mars.
Quelle est la raison
Aucune, si ce n'est que c'est une fin d'immersion, point.
Oui, enfin bon, mais donc ça veut dire qu'en gros, on n'a aucune autre perspective pour cette personne, quoi, aujourd'hui.
Ah non, non. Donc on lui demande de se remettre dans une dynamique d'immersion ailleurs.
Voilà. Alors, il y a eu aussi d'autres immersions qui se sont très bien passées aussi.
Oui.
Mais sur des postes qui n'existaient pas. C'est-à-dire en surnuméraire, par exemple, dans des équipes, ou pour parler concrètement, par exemple, sur un poste d'accueil en collège, alors qu'il n'y avait pas de poste d'accueil qui avait été créé. Non, qui existait.
Ah oui.
C'est-à-dire que voilà, on a des collèges où il n'y a pas d'accueil.
Ah oui.
Malheureusement, alors que c'est important. Ça, c'est une réalité. Et on a eu aussi ce type de situation-là.
On
a dit, non, il n'y a pas de poste, tu ne peux pas rester, ou tu es en surnuméraire, mais là, c'est la fin de ton immersion, voilà, tu as fait ton temps, il faut passer à autre chose. Alors que les personnes concernées avaient fait leur trou, avaient trouvé une place. Ouais. Et pas uniquement, c'est-à-dire rendre service, un service qui
sont repérés, hein.
Qui était pertinent,
ouais,
pertinent et tout à fait.
Et on ne sait pas ce qui commande à ça. Ça peut dépendre du chargé d'accompagnement. Des fois, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu un truc et voilà. Donc ça peut dépendre de là ou des personnes qui accompagnent l'agent. comme ça peut dépendre de choses qui nous échappent totalement. Il n'y a pas de logique, en fait. Si vous voulez, on a l'impression que c'est un peu au pifomètre. Il y a des agents qui vont rester en immersion, d'autres qui vont être... nommés sur les postes, etc. Et par contre, il y a quelque chose qui se développe, c'est qu'on a le sentiment que c'est une forme d'intérim, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on propose à des gens des parcours d'immersion là où on a besoin de boucher un trou, quoi, concrètement. Et quand le trou, il n'y a plus besoin, parce que parce que quelqu'un était en congé longue durée ou je ne sais quoi, et ben on lui dit bah, ton immersion est terminée, mais ce n'est plus de l'immersion, ça s'appelle de l'intérim. Donc nous, ce qu'on voulait aussi vous proposer dans la liste des propositions qu'on a à vous faire, on n'est pas très friands des groupes de travail parce que...
C'est un peu chaudé par les cours de...
Bah oui, puis depuis longtemps. Et puis c'est vrai que, à la limite, par rapport à ce que... C'est vrai que c'est quelque chose qui est fort porté par d'autres syndicats. Bon, malheureusement, ils revendiquent beaucoup des groupes de travail. Et quand ils y sont, il n'y a pas grand-chose qui... Ils apportent pas grand-chose, hein, pour la plupart. Mais bon, ça, c'est leur responsabilité. Nous, on a encore parlé de négociations parce que les négociations, nous, on a des propositions à faire. Et on est pour la confrontation d'idées et voir s'il y a des consensus à dégager. Je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'action sociale. Nous, on pense que si on fait un débat sur le travail social qu'on veut mener dans les UTPS, nous, on a des propositions à vous porter. On imagine que la DGASE en a aussi, mais il faudrait qu'ils les argumentent parce que pour l'instant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis, nous, on est même prêts à faire pas des concessions. Mais on pense qu'on pourrait s'accorder sur des choses, sincèrement, vraiment. On pense qu'on pourrait s'accorder sur des choses pour que ce soit le moins pire possible, de notre point de vue. Voilà. Sans remettre en cause la grosse machine des GASOL. Donc, voilà. C'est vraiment une invitation à... allez-y, à vous et à l'administration, ayez le courage de le faire, nous on est prêts à jouer le jeu, quoi. Voilà. Pareil pour la politique voyage, dont on vous expliquait. Oui. Nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait un débat et vraiment une concertation là-dessus, et voir une négo, quoi, qu'on mette à plat les choses et qu'on se pose la question. Et idem pour la question des immersions. Parce que les immersions, il n'y a rien qui est tracé. On a l'impression que c'est du pifomètre. On n'est pas adepte des procédures et des dispositifs, parce qu'on pense que ça enferme, et puis ça dépend, elles sont dictées souvent. Mais là, pour le coup, il faudrait quand même qu'il y ait des points de repère. Pour la question de la mobilité, avant votre arrivée, nous, on portait un projet sur la question de la mobilité qui était un projet qui, de notre point de vue, était égalitaire, qui était partagé en plus presque par l'ancien exécutif parce qu'ils étaient à deux doigts de le concéder. Il y a eu l'alternance et M. de Tavani qui a balancé ça d'un revers la main, donc on n'a plus trop d'espoir là-dessus.
Alors c'était peut-être M. Picard, on ne sait pas.
Oui, on ne sait pas. Enfin bon, bref, c'est
peut-être dû à M. Picard.
Mais en tout cas, possible. En tout cas, nous, on a des propositions à faire en termes de mobilité. La CGT était un peu sur nos positions. D'ailleurs, le petit poste qu'ils ont balancé cet été en réaction à Trop Mon Job porte en partie ce qu'on pouvait porter. En partie. On n'est pas en raccord sur tout, mais on partage des positions là-dessus.
Je ne sais pas combien la CGT, mais effectivement, je voulais les interroger parce que j'ai...
Sur la CAP mobilité.
Voilà, tout à fait.
Mais on a même produit des choses. Je pense qu'on a encore les écrits qu'on pourrait vous renvoyer. Très clair.
Je suis preneur, en tout cas, si vous avez des écrits, effectivement.
Ah ben oui, mais on les a produits. Et on a même eu, pour vous dire, des groupes de travail avec l'ARH de l'époque pour voir ce qui était possible de mettre en place ou pas. Et pour le coup, on était arrivé, juste avant l'alternance, on était arrivé à un consensus. C'est-à-dire que on avait fait un gloubi-boulga d'un mélange de ce qu'attendait la direction, enfin l'administration, et ce qu'on avait à proposer. On est arrivé sur un accord qui n'était pas 100% satisfaisant de notre point de vue, mais qui était vraiment un pis-aller, quoi. Ouais. Et un pis-aller positif, on va dire. Ouais. Mais monsieur de Tavernier, dès la première CAP, le 1er décembre 2015, a balayé d'un revers de la main de cette question-là et a nié quelque chose qui existait historiquement dans la maison, qui était le fait de rendre transparent les mobilités et de mettre en place, sur l'exemple de l'État, une CAP mobilité. L'intérêt de ça, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus des recrutements. C'est-à-dire que ce n'était plus les chefs qui choisissaient avec qui ils voulaient travailler ou pas. C'était à métier identique, hein, attention, hein, à métier identique, à fonction identique, des gens qui pouvaient postuler dessus, puis il y avait des critères objectifs qui étaient d'abord pris en compte, et si besoin, des critères plus subjectifs comme l'état de santé. Donc on avait réussi à faire un mélange des deux. Ça permettait aux collègues de savoir où est-ce qu'il y avait des postes vacants. Ouais. Il y avait une transparence là-dessus.
Il y avait une visibilité.
Une visibilité pour tout le monde. Et quand ils postulaient, ils savaient si oui ou non ils avaient des chances d'obtenir le poste. Pas parce qu'ils savaient se vendre ou pas, mais parce qu'ils avaient le profil, ils avaient l'expérience, ils avaient l'ancienneté, ils avaient un certain nombre de choses. Et ça marchait. C'était circonscrit à la DGA Sol. Et nous, on pensait qu'on pouvait le faire évoluer au niveau des établissements, des collèges, parce qu'on est sur des métiers identiques. C'est juste le secteur qui change, en fait. Hein. Un cuisinier, qu'il fasse à Bailleul ou qu'il fasse à Armentières, il est cuisinier. Donc, voilà. Et là-dessus, on s'est confronté à un refus parce qu'il voulait faire des top chefs, quoi. En fait, il voulait mettre des cuisiniers. Vous savez comment ça marche, le recrutement des cuisiniers dans les collèges, dans certains collèges?
Dis-toi.
Ben, on fait des concours, quoi. Comme un top chef, voilà. Donc, on les met... Bref. Donc, nous, on, sur la question de la mobilité, et peut-être à travers les immersions...
Vous avez des propositions?
Ben, en tout cas, on pense qu'il faut absolument qu'au niveau des immersions, les choses soient cadrées.
Je suis d'accord avec vous.
Et nous, on est prêts à en discuter avec vous. Si ça peut aller au-delà de la question des immersions et de reparler de la question de la mobilité, pourquoi pas. Après, on sait peut-être qu'on ne sera pas d'accord parce que, ne serait-ce que par la manière dont vous envisagez la question de la mobilité, par l'idée du troc mon job, on risque de ne pas être d'accord, mais au moins qu'on ait l'occasion d'en discuter.
Quoi. Ouais. On a, au niveau de cette visibilité, effectivement, on nous a, quand tout a été balayé, la DRH de l'époque nous a dit que voilà, on allait faire les choses, elle allait faire les choses et gérer les choses au fil de l'eau, hein, au niveau des recrutements, des mobilités. Et donc c'est devenu totalement opaque. Et c'est devenu tellement opaque que c'en est devenu opaque aussi pour la RH, les services RH. C'est-à-dire que nous, quand on va accompagner des collègues en UTRH, parce qu'on n'arrive pas à leur trouver de poste adapté, parce qu'il y a aussi tous ces collègues qui reviennent d'une longue absence suite à un accident de service, souvent. Il y a des préconisations médicales et là ça se complique. Donc c'est-à-dire que les collègues, la tâche se complique pour les collègues des services RH.
Il y a une distorsion dans l'information entre ce que la RH a. Pourtant, il y a des réunions régulières.
Et ils n'ont pas la visibilité. Ils n'ont pas la visibilité de l'ensemble des postes. Ils nous l'ont lâché. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand vous vous retrouvez face à l'agent et au représentant du personnel, vous ne savez pas quoi proposer parce que vous ne savez pas ce qu'il y a de disponible. C'est qu'il y a, on comprend. Donc, on n'est pas là pour tirer sur les collègues. On comprend très bien les conditions de travail et leurs conditions de travail actuelle, mais toujours est-il, c'est que cette visibilité n'existe pas non plus, ou alors elle est partielle sur les postes disponibles pour les collègues qui sont en demande de mobilité ou qui ont un besoin de reprendre un poste adapté. Et donc ça complique énormément les choses. On a des agents du coup qui sont obligés de rester chez eux en attendant qu'on leur trouve un poste, quoi. On a dû intervenir sur plusieurs situations comme celle-là. Ou alors on décrète, en tout cas, il y a un accord pour une reprise à mi-temps thérapeutique. Ouais. Et le problème, c'est que ce mi-temps thérapeutique, il démarre à une date donnée. Et le souci, c'est que on n'a toujours pas de poste. Donc le temps court, et on a dû réinterpeller à partir du moment où on avait trouvé un. La DRH a trouvé un poste pour le ou la collègue en question pour dire attendez, le mi-temps thérapeutique, là, il va bientôt se terminer, ça, c'est pas possible, là, il faut le redécaler à partir de la prise de poste. Ouais, ouais. Et on a dû interpeller jusqu'à Mme Fournier pour que ça puisse se mettre en place. Parce que les UTRH n'osaient pas prendre cette décision-là.
Après, il y a tout un travail à mener. Sur la mobilité en règle générale, sur les immersions, où tout est à revoir.
Mais cette DGPEPS, monsieur Huss, nous, on est inquiets aussi par rapport. Je vous ai parlé des conditions de travail des collègues, en termes d'organisation des services. C'est pas encore réglé pour les UTRH. Je veux dire, c'est pas encore réglé et on reparle encore d'une réorganisation. Alors, bon, c'est parfois la petite semaine, on réajuste. Mais ça va faire combien de temps qu'on réajuste depuis l'apparition, enfin, cette création des UTRH? Alors que cette DRH fonctionnait relativement bien.
C'est hallucinant, ça.
Cette DRH, ces services, la gestion des carrières, ressources et carrières. Là,
la DGC à l'époque.
La DGC.
La direction de la gestion des
carrières. Elle fonctionnait bien. Donc on n'a pas compris.
Elle fonctionnait mieux.
Les directeurs de l'époque, enfin qui sont toujours d'ailleurs en poste, on a dit écoutez, ça a été pondu hors sol votre projet UTRH là, ça fonctionne pas. Et on est très inquiet aussi puisque vous le savez mieux que nous, il n'y a pas que le budget hein, qui est le cœur de, contrairement à ce que pouvait penser M. Picard. Hein, qui est le cœur de cette institution. Il n'y a pas que le budget, mais il y a aussi la RH. Hein. Ça, c'est le deuxième cœur. Sauf que ce cœur, il va pas bien, quoi. Il va pas bien, il fonctionne pas bien. Et ça peut avoir un impact sur toute l'institution, mais d'abord sur chaque agent. Hein, l'impact que ça peut avoir. Hein, les conditions de travail dans lesquelles... Parce qu'on a fait, une visite CHSCT, pour revenir à ça... Hein. On a pu pointer certaines choses, mais le souci c'est que ces réorganisations, parce que voilà, c'est toujours pas organisé, puisque c'était hors sol, ça a été pondu hors sol, il y a des choses qui sont à réajuster sans cesse. Ça ne fonctionne pas, et on a des collègues qui ne restent pas. On a perdu, je l'ai dit à M. Bernard, à M. Kowalski, on a perdu énormément de collègues qui avaient un savoir, une technicité au niveau RH. Ils s'en rendent compte, parce que moi, quand je les ai vus acquiescer, ils ne nous ont pas dit non, vous inquiétez pas, on va former nos collègues, les nouveaux.
Ils sont emmerdés.
Et donc, par rapport au dossier retraite, santé.
Qui sont hyper compliqués.
Les fiches de paie, je veux dire, je ne sais pas, enfin, si vous risqueriez à faire une fiche de paie pour un collègue, moi, je ne le ferais pas. Hein, étant donné les conséquences que ça peut avoir après sur le...
Et si les fiches de paie, elles sont faites en temps et en heure, c'est parce qu'il y a des collègues qui sont dévoués. Hein, parce qu'on a des exemples de collègues qui font régulièrement des heures supplémentaires le soir, qui restent tard le soir pour que la fiche de paie, elle soit, enfin pour que le paiement il soit assuré. Notamment, je pense à des collègues, des exemples sur les contractuels, qui soient assurés à la fin du mois. Mais moi, je pense que ce n'est pas tout à fait hors sol. Hein, c'était une position dogmatique. Et on vous l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, à travers la DGA Sol, c'est qu'ils ont voulu rendre polyvalent. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, au niveau de la gestion de la gestion des carrières, il y en avait qui étaient chargés d'accompagnement au niveau de la formation, d'autres qui étaient donc santé-retraite, avec un niveau d'expertise de dingue, et des collègues qui étaient plus sur la rémunération, d'autres qui étaient sur l'avancement, etc.
Prestations
aux agents. Donc on avait, comme on appelle, une équipe pluridisciplinaire avec des gens qui avaient développé une expertise dans leur domaine. À ce moment-là, la volonté de l'exécutif et de l'administration, c'était de rendre tout le monde polyvalent pour régler un problème c'est un problème d'effectif. C'est ce qu'on appelle la flexibilité, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans une équipe de 10, on gomme les expertises et qu'on rend tout le monde polyvalent, il n'y a plus de problème d'effectif. Voilà, ça va être compliqué à gérer, ça va générer plein de conséquences, et elles sont apparues. Donc c'est pas que c'est tout à fait hors sol, c'est que c'était une position dogmatique de mettre en place ce type de fonctionnement, ce qui veut être calqué ailleurs, et notamment dans le social. Et ils se sont pétés la tronche, parce que les UTRH, ils se sont rendus compte. Alors, au départ, c'est les collègues qui sont... j'ai des exemples concrets de collègues qui étaient spécialisés en santé-retraite, devaient former leurs collègues, pour qu'elles puissent faire la même chose qu'elles. Mmh. Sauf que... c'est pas des choses qu'on apprend sur 3 mois. Hein. Maîtriser l'ensemble des dossiers avec la CNRACL et tout le bazar, là, c'est pas des choses qu'on appréhende en 3 mois. Et donc, des collègues ont réussi à s'adapter assez vite, et la plupart, comme elles devaient faire de tout, puisqu'on avait un portefeuille d'agents, on avait plus une porte d'entrée thématique, on avait un portefeuille d'agents à devoir gérer, portefeuille d'agents qui a grossi, puisque l'intérêt de la polyvalence, c'était qu'on mettait moins de gens avant, moins d'agents, donc on avait plus, on avait un portefeuille d'agents plus élevé, et donc on n'apportait plus les réponses adaptées, il y a eu des situations en tension, et si M. Bernard pouvait l'avouer, je pense qu'il ne le fera pas, mais pouvait l'avouer, ils sont en de grosses difficultés, parce qu'ils ont mis des cadres en plus qui n'étaient absolument pas formés, signifie que les cadres devaient intervenir sur des questions santé-retraite, ils ne maîtrisaient pas. En fait, ils ont mis des managers, ils n'ont pas mis des techniciens. Ils ont mis des managers.
Entretien.
On l'a dit d'ailleurs une fois, c'était, je pense. On l'a dit, le problème à la DRH, c'est que l'encadrement, il capte que dalle. Pas parce que c'est des chefs ou qu'ils comprennent rien, c'est que c'est pas des techniciens, oui, c'est des managers uniquement. Et donc on sent une volonté de retour en arrière, ce qui fait que dans les équipes UTRH, la collègue, je pense par exemple à Nadia, qui était spécialisée santé-retraite, on lui a dit de faire d'autres choses. Donc bon, d'accord, c'est n'importe quoi, mais d'accord. Mais à un moment donné, pour que ça tourne, on lui a dit bah non, finalement tu vas quand même. Bon, officiellement, tu es polyvalent, hein. Mais dans le service.
Plus spécialisé sur le.
Mais à chaque fois qu'il y a une collègue qui est en difficulté, elle t'enverra le bazar. Donc, voilà. Donc, les UTRH, c'est un feuilleton. Et c'est vraiment symptomatique et emblématique de cette manière de concevoir l'organisation du travail par la polyvalence à tout prix. Alors, toujours les mots, ils me font marrer. On les voit venir, les cadres. Hein. Ils sont élevés au même grain, hein, sincèrement. Ils viennent et ils nous disent. Ils vont voir les collègues, on dit, mais ça te dit pas de monter en compétence imagine l'évolution de ta carrière. Alors ça prend plus trop ça. Il y a plein de collègues qui ont cru et qui aujourd'hui sont très déçus. Mais monter en compétence, il faut monter en compétence. Autrement dit, tu vas faire des choses que tu ne faisais pas, pour lesquelles tu n'es pas formé, mais tu feras d'autres choses. Et d'ailleurs, tu feras ces choses-là, mais tu continueras à faire ce que tu fais. Tu feras de tout, en fait, polyvalent. Donc, cette logique-là, elle a ses limites. Elles sont très efficaces en matière d'économie sur la masse salariale. C'est, sur ce point de vue-là, ça va être très, très, très efficace. Pour le coup, par rapport au service rendu, et en lien avec ce que vous attendez de la prestation RH, qui est un service qui est au service des agents, la qualité du service rendu, elle en prend un sacré coup dans la tronche, puisque elle est fortement altérée, quoi. Donc voilà. Mais ça aussi, hein, c'est... Alors après, c'est vrai que. Quand on parle de ça ensemble, c'est dans le cadre de CT. Et c'est vrai que M. de Tavernier est un petit peu blasé par nos interventions, parce qu'on essaie de les construire. Voilà.
Oui, et puis le concret, ça n'intéresse pas.
Mais.
C'est un jugement assez dur.
Venir en CHSCT.
Mais même en CT, vous le voyez aussi en CT.
Oui,
oui,
non, mais. La possibilité de vous exprimer.
Ah oui, mais ça, oui, il est très poli.
Oui. Bien sûr.
Ah, il ne nous coupe pas la parole. S'il l'a déjà fait plusieurs fois, parce qu'on l'a mis en colère plusieurs fois. D'ailleurs, nous, on ne se gêne pas pour couper la parole aussi, hein, on l'assume. Hein. Mais si, il y a une politesse. Mais bien c'est sûr. Pas. Bon.
Non, voilà.
Bon, en tout cas, je vous confirme que c'est déjà. Avant de parler de performance, il y a surtout le mot partenaire. Moi, j'y crois beaucoup. Et donc, effectivement, la vocation à renforcer un peu le service. Auprès des autres agents, des collègues, et notamment ce que vous dites, la DRH était beaucoup bousculée, c'est un fait, c'est pas du tout un scoop, et je pense que personne ne peut le nier. Maintenant, encore une fois, j'ai un peu cette idée en tête, c'est-à-dire, ou cette image, à un moment donné, vous savez, quand on a fait un déménagement, pas forcément la dire comme, mais un déménagement chez soi, vous avez de la poussière, vous savez, la poussière, puis il faut la laisser retomber la poussière.
Ouais, vous l'avez déjà sortie, elle est pas mal. Hein.
Oui, non, mais bah, c'est sympa.
Mais... Non, c'est vrai, il faut laisser retomber la poussière. Nous, on dit qu'il faut laisser tremper. C'est à peu près la même chose. Voilà, mais
c'est une chose importante. Vrai, il faut laisser. Il faut par contre consolider les UTRH. Sans papier, ça peut être une bonne idée, l'UTRH. Ça peut être une bonne idée. À condition que ce soit bien pensé et qu'on ait effectivement ensuite des personnes qui sont outillées pour ça. Mais... Et, y compris sur les outils de travail, parce que quand même. Bah moi, il y a quand même un sujet qui m'interpelle, c'est quand même aujourd'hui nos outils de travail. Je veux dire, on n'a pas forcément les logiciels qui vont bien, on n'a pas forcément. On a encore beaucoup de choses qui se font à la main. C'est pas comme ça aussi qu'on aide nos collègues.
Ouais, mais justement, par rapport à ça, sur la question par exemple de la dématérialisation, l'informatique, etc., nous, on est très critique par rapport à ça. À la fois, on a essayé de nous faire passer pour des archaïques. On utilise énormément l'outil informatique. Enfin, vous le voyez dans nos communications, ne serait-ce que dans nos communications.
On est pas à la ramasse, hein.
Voilà, on n'est pas. Voilà. Mais, par contre, ça soulève beaucoup de problèmes. Penser que la dématérialisation, c'est moderne. Oui, ça peut paraître moderne, mais pour le coup, ça a plein d'autres conséquences. Et en termes de développement durable, comme vous évoquiez tout à l'heure, c'est tout sauf écologique. Hein. Alors, effectivement, on produit moins de papier. mais on alimente des serveurs. Je pense qu'il y a eu un nouveau serveur qui a été ouvert parce qu'on était saturé au niveau des serveurs, au niveau de la collectivité, d'après ce que j'ai compris. C'est énergivore, c'est tout sauf écologique les serveurs. Et d'ailleurs, c'est prouvé par tout le monde. Donc, les clouds, là. Donc, c'est tout sauf écologique, donc c'est tout sauf développement durable. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pire que le papier, ce n'est pas le problème. Mais imposer ça comme étant, l'alternative idéale, c'est faux. Et après, ça pose d'autres questions.
Pour lutter contre...
Non, mais c'est cet exemple-là. Après, ça pose d'autres problèmes. Et là-dessus, on souhaite aussi... vous avez été interpellé, enfin vous avez été mis en copie, je pense, l'interpellation qu'on a fait au niveau du CIL, concernant l'utilisation des données personnelles. Oui. Vous avez vu sur Robert Tourcoing ce qu'il demandait. On a
réussi. Vous avez vu ma réponse sur Robert Tourcoing, parce que bon, j'étais en projet, bon, mais j'ai quand même demandé à.
Et moi, j'ai pas vu.
Oui, tout à fait. Mais tout à fait, on l'a vu.
Oui.
Vous n'étiez pas au courant.
Oui, c'est ça. Oui, cette réponse-là.
Et que vous n'aviez pas validé.
Absolument. Et si d'aventure un jour, ce devait proposer, ça passerait d'abord.
Mais par contre, ça pose une autre question sur laquelle nous on souhaiterait aussi davantage de transparence, un peu comme les enveloppes AMAZ et tout le bazar, mais dans ce registre-là. Nous, on souhaiterait avoir, être destinataire, alors nous, les agents en général, destinataire de l'ensemble des fichiers à données nominatives au sein du département. Normalement, il doit avoir une déclaration, c'est plus une autorisation maintenant à la CNIL. Ça c'est beaucoup moins contraint, c'est juste une déclaration. On souhaiterait avoir destination de l'ensemble des fichiers, pas le contenu, mais l'ensemble des fichiers qui existent en termes de données nominatives d'usagers ou du service public ou des agents internes. Parce que on fait le constat ici et là que des fichiers sauvages se mettent en place ici et là, et en termes de recueil de données nominatives. Ce qui est... de notre point de vue liberticide, et pas que de notre point de vue, c'est la loi, et en plus contraire à la réglementation.
Des exemples concrets
On a cet exemple-là particulier, mais c'est des fichiers qui peuvent paraître banals au départ, qui sont présentés comme étant de simples outils de travail, mais ne serait-ce que des tableurs Excel de données nominatives qui sont créées ici et là. Et ça, c'est pas normal. Comme un vieux... C'est pas lié aux données informatiques, mais comme un vieux serpent de mer ici au département, c'est les doubles dossiers administratifs des agents, voire les triples ou quadruples. C'est-à-dire qu'on est censé en avoir qu'un seul, vous, nous, tous, on en a un, qui est ici en centrale, et il y en a d'autres dans les services. Et ce qui n'est pas légal, et qui parfois peut voyager d'un service à un autre. Voilà. Où dedans il y a des données, où dedans il y a des doubles de d'entretien d'évaluation, où il y a des données personnelles, etc. etc. Donc on a essayé, mais c'est vieux, on a essayé à plusieurs reprises de les faire supprimer. On avait même reçu un courrier une fois... C'était Mme Rutkowski en disant qu'effectivement ça devait être supprimé, mais on sait qu'il existe encore ici et là, alors il faudrait faire un recensement.
Elle avait fait une note de service
Oui. Ça ne devait plus exister.
C'est ça. Mais bon, ça perdure encore.
Mais c'est un exemple, mais en tout cas pour les données nominatives, notamment informatiques, usage informatique, autrement dit le fichage, nous on souhaiterait être destinataire de ce qui est déclaré à la CNIL. Enfin, ça doit exister, quoi. Parce que on a des interrogations parfois sur le terrain de collègues qui, sur un plan éthique, s'interrogent, quoi. Et là, on a l'exemple de Roubaix-Ouattrelot, là, avec cette consigne. Après, juste pour avancer, on voulait attirer votre attention sur quelques interpellations qu'on vous a faites.
Par rapport à la PMI de Bailleul.
Il y a la PMI de Bailleul.
Notamment. Donc, c'est une autre situation. D'ailleurs, vous avez été destinataire
Et c'est pour ça qu'on vous en reparle.
Voilà. C'est une situation un peu particulière, puisqu'effectivement, on a une équipe qui est en grande souffrance.
Aux agissements d'une des collègues.
Voilà. D'une des personnes de cette.
Qu'on connaît.
Voilà.
Puisqu'elle a fait appel à nous à un moment donné.
D'accord. Ouais. Tout à fait.
Et qui ne va pas bien non plus.
D'accord.
Alors, la hiérarchie est au courant puisqu'elle a été interpellée puisqu'il y avait une demande de supervision, la chef de service ne sachant plus comment, comment gérer ça. Mm-hmm. Il y a eu une demande de supervision qui a eu lieu et le superviseur, donc un tiers extérieur,
a produit un rapport,
a produit une note.
C'est alarmant.
À destination de l'institution et de la hiérarchie, disant qu'il fallait faire quelque chose immédiatement. On reprend ces termes exacts, il me semble, dans l'interpellation.
Je ne me souviens plus des termes.
J'ai plus les termes exacts là sous les yeux.
Mais c'était alarmant.
En disant qu'il fallait faire quelque chose, puisqu'il y avait effectivement une personne qui était dangereuse pour les autres.
Ou pour elle-même.
Ouais, voilà.
Les deux.
Donc,
Et cette personne...